auditeurs pour ce nouveau Libre Journal du jeudi. Ce Libre Journal sera consacré aujourd'hui au thème suivant : le programme du Rassemblement National est-il social, socialiste ou libéral ? Question un peu provocatrice parce que beaucoup de gens parlent du Rassemblement National mais peu l'envisagent à partir des données objectives. J'ai donc invité pour en parler objectivement Pierre-Romain Thionnet, député européen RN, membre des commissions Défense et Affaires étrangères. Il est aussi directeur national du RNJ, mouvement de jeunesse du RN. Pierre Gentillet, avocat, il était candidat RN aux élections législatives en 2024. Il est actuellement conseiller municipal à Argenton-sur-Creuse. Et Rodolphe Carte, collaborateur à la revue Éléments. Il est l'auteur notamment des ouvrages Georges Sorel, Le révolutionnaire conservateur, édition du Verbe haut, paru en 2023, et Faire Légion pour un réveil des autochtones aux éditions de la Nouvelle Librairie.
Alors, petite précision, c'était le premier était aux éditions Éthérie.
Ah, d'accord.
Et pas le Verbe haut.
D'accord, alors, restez rétabli.
Petite, voilà,
ça est rétabli. Vous avez raison de le signaler pour le rappeler aux auditeurs. Alors, le programme du Rassemblement National est-il social, socialiste ou libéral ? La question se pose tant ces dernières années, le Rassemblement National est apparu comme un mouvement social s'adressant essentiellement aux classes populaires et aux classes moyennes défavorisées, précarisées, du bas contre le haut en quelque sorte. On a eu après toute une série d'attaques de la part d'un certain nombre de gens de droite et de gauche qui ont critiqué le Rassemblement National en disant que cet aspect social n'était en vérité que socialiste. Alors on a entendu des gens aussi différents que Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Sarah Knafo, Jean-François Copé et d'autres. Ça peut paraître un petit peu quand même surréaliste. Et puis après, d'autres encore se sont greffés là-dessus pour aller encore plus loin et dire, par exemple, comme François Hollande, qui n'est quand même pas n'importe qui, que le programme social et économique du Rassemblement National était communiste. Alors là, on a encore franchi un saut. Et on s'interroge parce que depuis un an et demi, il semblerait que sur la question des retraites, sur la question de toutes les thématiques que Marine Le Pen avait pu mettre en avant depuis quelques années, tout cela semble avoir été un petit peu neutralisé, on semble moins en parler, et même peut-être que s'amorce aujourd'hui un virage ou l'amorce d'un virage libéral. Donc tout ça paraît un peu contradictoire, ces étiquettes sont-elles à détiqueter ? Est-ce qu'il faut revenir à des choses simples pour essayer de comprendre un petit peu les lignes de front du Rassemblement National ? Y a-t-il une opposition fondamentale entre un libéral que serait Bardella et une étatiste que serait Marine Le Pen ? Est-ce que ça n'est pas trop simpliste que de voir les choses ainsi ? Bref, où en est-on ? Social, socialiste ou libéral ? Le Rassemblement National est-il l'un de ceux-ci ? Alors, j'ai envie de m'adresser à vous, Monsieur Thionnet, parce que vous êtes, je crois, un des proches de Bardella, de la jeune garde. Vous êtes par ailleurs influencé intellectuellement par un certain nombre de penseurs qui ne se situent pas directement dans le droit fil de la pensée dite nationale. Je pense à des gens comme Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, etc., chez les écologistes, critiques du système technicien capitaliste, et qui nécessairement ne fait pas partie des références obligatoires d'une certaine droite. Alors qu'en est-il ? Est-ce qu'il vous paraît qu'aujourd'hui, vous, au sein des fonctions qui sont les vôtres, auprès de Jordan Bardella, au sein du Rassemblement National, est-ce qu'il y a toujours cette dimension sociale, une dimension socialiste fantasmée ou une dimension libérale qui serait également fantasmée et qui serait au centre du mouvement? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Merci d'abord pour ce très vaste sujet, mais je pense qu'il donnera l'occasion de faire à la fois parler des mesures du programme du Rassemblement National, mais aussi plus largement de mettre aussi dans un contexte d'histoire des idées politiques aussi, des courants, d'évolution qui peut exister. Je pense qu'on aura le temps de le passer ensemble, mais tout d'abord pour commencer, dire peut-être que, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, il y a autant de lignes du Rassemblement National que de personnes extérieures qui en parlent. Ça, je pense que c'est quand même... Et à voir également derrière ces propos que vous avez rappelés de différentes personnalités politiques, souvent qui s'attardent moins sur le fond, sur le programme, sur des mesures concrètes. C'est souvent la deuxième question qui arrive une fois qu'ils ont asséné le Rassemblement National est un parti socialiste ou un programme économique socialiste. Ensuite, la deuxième question qui vient souvent du journaliste, quelles mesures ou sur... Et là, ensuite, il n'y a pas de réponse particulière. Pourquoi ? Parce que, je dois commencer sur ce point, parce que c'est un argument davantage de positionnement politique et de critique, disons, électorale à l'endroit du Rassemblement National. Notamment, je m'adresserai et répondrai ici aux tenants de ce qu'on appelait la droite de gouvernement, mais qui ne gouverne plus depuis 2012, donc... Peut-être qu'on pourrait passer une autre appellation maintenant. Mais à quoi sert cette attaque vis-à-vis du Rassemblement National de le présenter comme un ayant un programme socialiste, voire communiste pour les plus excessifs qui puissent en parler? C'est la dernière carte qu'il leur reste pour maintenir un électorat qui a fondu comme une neige au soleil depuis des années maintenant. Et donc, il y a eu cette plus-value du Rassemblement National, Front National avant lui, sur les questions de sécurité, d'immigration, d'identité, où un électorat a basculé du côté du Rassemblement National, en raison du bilan de la droite de gouvernement, notamment sous Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui maintient parfois un vote préférentiel d'une partie de la droite classique vers les Républicains ou le centre-droit plutôt que vers le Rassemblement National? C'est cette idée d'un programme économique qui ne serait pas solide ou qui serait le même que celui de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pure rhétorique politique et fait partie du jeu traditionnel, hein, voilà. On a aussi nos arguments rhétoriques à l'encontre d'adversaires politiques, mais donc voilà, il y a davantage plus un mythe derrière cette expression, derrière ces attaques, plus que de la réalité, et je pense qu'on pourra le développer ensuite, mais c'est essentiellement un argument rhétorique de la part de la droite ou du centre-droit qui vise à maintenir des classes. Là, on va parler plutôt de classes... un électorat plutôt âgé, retraité, ou un électorat plutôt aisé économiquement, qui peut être encore sensible à ce type d'argument, même si c'est de moins en moins le cas. Et donc, là, pour en venir au Rassemblement National, on aura remarqué depuis un certain nombre d'années, pas seulement depuis, semblait dire, depuis 2024 ou un an et demi, mais depuis, dès déjà 2022, c'était perceptible, mais ça allait de manière croissante, c'est que le Rassemblement National... Ses principales figures, Marine Le Pen et Jordan Bardella, dans les différentes enquêtes d'opinion qui peuvent exister, font des percées ou améliorent sensiblement leur score potentiel, leur score en puissance pour les prochaines échéances électorales, vis-à-vis de ces électorats-là, qui leur étaient plutôt réticents ou moins favorables par rapport à la moyenne nationale il y a quelques années de cela. Et donc, il y a aussi, c'est à la fois du haut vers le bas, nous, côté Rassemblement National, on a aussi un discours qui s'adresse aussi davantage à ces classes-là et qui met en avant des points de notre programme ou des secteurs, des enjeux dont on évoquait moins par les années précédentes. Mais il y a aussi un mouvement du bas vers un effet d'attraction vers le Rassemblement National de ces classes qui sont, et là je pense qu'on y reviendra plus tard, je vais m'arrêter là pour commencer, mais qui sont liés aussi au bilan du macronisme, qui a aussi pénalisé, qui a aussi affecté, endommagé les intérêts de ces classes aisées, de grands groupes, des intérêts industriels français, la question de l'endettement du pays depuis 10 ans du macronisme. Et donc, il y a aussi un bilan noir, un bilan négatif du macronisme vis-à-vis des attentes de ces classes en 2017 ou en 2022, et donc qui maintenant se rabattent vers le Rassemblement National.
Oui, mais que jusqu'à maintenant, les propositions du RN soient... en osmose, si j'ose dire, avec la volonté, le souhait que des classes populaires, sociales se retournent vers lui, ça paraît cohérent, homogène. Tandis que là où on a un petit peu une impression, disons, depuis la présidentielle, c'est que ce que Zemmour, qui lui-même avait été très antilibéral depuis un temps, oui, était revenu de cet antilibéralisme au nom de l'Union des droites, et parlait de l'oxymore de bourgeoisie patriote. Mmh. Alors on peut se demander si dans une certaine mesure, le RN ne reviendrait pas lui aussi vers cet oxymore pour essayer de se concilier des classes qui n'étaient pas les siennes jusqu'à maintenant, pour essayer de maximiser les profits, si j'ose dire électoraux, mais sans avoir forcément une force interne sur le plan argumentatif, sur le plan politique, qui soit réellement cohérente.
Alors, deux éléments de réponse. Le premier, pour reprendre ce que j'avais dit précédemment, c'est qu'il y a aussi cette désaffection d'une partie de ce bloc élitaire, là, pour reprendre les expressions de Jérôme Sainte-Marie, qui était vraiment les tendances, la tendance lourde du macronisme, de, un peu de, d'unifier, de forger ce bloc élitaire. Et il y a eu des désillusions de ce bloc élitaire vis-à-vis de la figure d'Emmanuel Macron. Et nous sommes aujourd'hui dans une période de macronisme finissant. Et donc, il y a un effet de, disons, de ce bloc-là, ou cet élément aussi qui n'est pas tellement homogène, hein, il y a des intérêts différents, mais va rechercher d'autres, maintenant, offres politiques à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Et donc, bien sûr qu'il est dans l'intérêt du Rassemblement national de, aussi de capter ce bloc macroniste finissant, et qui va, où les parts de macronisme sont plus ou moins en vente d'ici à l'élection présidentielle 2027. Et donc, je crois qu'on a, nous, dans notre programme, concrètement, factuellement, sans chercher à le modifier, on a des éléments qui objectivement répondent aux aspirations de ces classes plutôt aisées, et que Emmanuel Macron n'a pas su satisfaire. Je veux dire, quand on parle des enjeux pour nos entreprises, pour notre industrie, la réindustrialisation, les enjeux énergétiques, là sur le prix de l'énergie, des choses très concrètes, on répond à la fois, et c'est là que je voudrais insister, on répond à la fois aux intérêts de nos grands groupes industriels, de la compétition économique européenne et mondiale, avec le prix de l'énergie, notamment du nucléaire, mais on répond aussi aux attentes populaires, aux attentes de pouvoir d'achat, de fin de mois des Français. Donc, en fait, à travers cet enjeu de l'énergie, et je pense qu'on pourra y revenir sur d'autres enjeux liés à la question de l'idéologie libérale, à mon avis, c'est une clé d'entrée intéressante, la question de l'énergie, mais on voit bien que nos mesures qu'on peut proposer sur ce sujet ne sont pas classistes. Elle ne vise pas à satisfaire ni seulement les grands groupes, les industriels dans la compétition économique mondiale, ni ne vise seulement à améliorer le pouvoir d'achat des classes populaires, mais je crois que ça répond tout à fait aux deux aspirations.
Alors, Pierre Gentillet et Rodolphe Carte, je repose un peu la question pour que vous puissiez rebondir dessus, et puis vous reviendrez évidemment sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il n'y a pas justement antagonisme de classe dans un système capitaliste comme le nôtre, où de toute façon les classes sociales populaires sont de toute façon défavorisées et précarisées, et les classes bourgeoises aisées, mondialisées, sont elles aussi extrêmement fortes, puissantes, et donc se fait au détriment de la communauté. Est-ce qu'il y a en quelque sorte une complémentarité possible, d'un point de vue pragmatique, je n'en doute pas, mais d'un point de vue normatif,
même entre d'un côté économique.
Ouais.
C'est ce que vous évoquez là, c'est un peu le. Ça me fait penser à une joute bien connue à l'Assemblée nationale entre Jean Jaurès et Maurice Barrès, si ma mémoire est bonne. Jean Jaurès évoquait. Si ma mémoire est bonne, le fait qu'il y avait des taux de pauvreté différents à Paris, en fonction bien sûr des quartiers, etc., etc., et qu'il fallait désormais voir la politique uniquement sous cet angle-là, cet angle de classe, pour avoir la bonne analyse. Ce à quoi Barrès répondait, là où vous voyez, il y a un petit souci avec le micro,
voilà,
est-ce,
que
c'est, est-ce qu'on m'entend ? Là où vous voyez des classes, moi je ne vois que l'unité nationale, et je vais développer un petit peu sur ce point, c'est-à-dire qu'en fait la vision classiste, déjà je pense que c'est une vision qui est fausse, comme si ce serait des espèces de blocs figés monolithiques, et puis par ailleurs ça découle d'une vision de l'économie, une vision de l'économie statique, un petit peu comme s'il y avait un gâteau avec une répartition des différentes parts, et au fond, on oublie l'élément essentiel, c'est la croissance de ce gâteau, c'est la croissance de l'économie. Je veux dire, le plus important, c'est pas que les égalités se réduisent. Mais pour ma part, j'ai toujours trouvé ce discours, complètement absurde. Le but de la politique, c'est pas de tendre à l'égalité la plus parfaite, la plus absolue. Le but, c'est...
Réduire les inégalités, ça n'est pas atteindre l'égalité la plus parfaite.
Mais même réduire les inégalités, moi je ne suis pas pour la... Je ne pense pas que la réduction en soi des inégalités, si on s'éloigne un peu, même si ça rejoint ce que vous dites, soit en soi un but. Le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de personnes dans la pauvreté. C'est ça l'objectif essentiel. Et si on regarde, par exemple, sur les 50-60 dernières années, on voit qu'il y a, au niveau mondial cette fois-ci, un effondrement de la pauvreté, un effondrement même de l'extrême pauvreté. Je ne suis pas en train de dresser une vision angélique de la société mondialisée, je crois la dénoncer depuis un certain temps, mais force est de constater que c'est bien ça l'essentiel. C'est pas la question de l'égalité, c'est la question de la prospérité et de l'épanouissement des individus. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez, Donc je pense que cet antagonisme-là, parce que le RN s'adressait à des classes plus aisées, mécaniquement, il va perdre les classes plus populaires. Je pense, pour les raisons que j'ai évoquées ici, que ça n'a absolument rien de mécanique et que, pardon, ça ne tient pas. Par contre, l'opportunité de ce discours, aujourd'hui, justement, de dire le RN s'éloigne de sa ligne historique, nationale, populiste, qui avait été initiée de longue haleine dans les années... allez, au moment où Florent Philippot était là, voyons, on peut remonter 10-12 ans, et aujourd'hui, il est sur le point d'accéder au pouvoir, et donc il trahit cette ligne, il trahit les classes populaires. Bon, c'est un joli conte pour enfants, mais en réalité, oui, je vous dis, c'est pas...
Est-ce que ça n'est pas le conte qui a été raconté un tout petit peu aussi par les gens du Rassemblement National à l'encontre de Zemmour, de Knafo ou d'autres personnes, au moment même où ils n'étaient pas dans cette position-là?
Non, parce que c'était une description objective de la sociologie de l'adversaire,
oui,
ici, qui était Eric Zemmour.
On en déduisait quand même une vision du monde qui était contre classe.
Non, mais parce qu'il y avait, alors là on peut rentrer dans le programme, parce qu'il y avait des éléments dans le programme, qu'il s'agisse du protectionnisme économique, qu'il s'agisse effectivement de la retraite, non pas à 60 ans, mais de la retraite à 62 ans, et avec exception 60 ans. C'est-à-dire que le principe, je rappelle, c'est 40 annuités. Là encore, ne faisons pas caricature, on entend trop souvent dire « le RN veut la retraite à 60 ans ». Dire ça comme ça, ce n'est pas vrai.
De toute façon, on sait depuis qu'il y a eu évolution sur la question.
Là, c'est pas qu'il y a eu évolution, c'est simplement qu'en fait...
Il y a eu précision.
On a fait un mauvais procès en 2024, au moment des élections législatives, on va pas le refaire, mais on a fait dire des choses qui étaient absurdes. Mais attendez, je veux juste répondre la question essentielle, parce que là, j'ai peur qu'on s'éloigne du sujet. La raison pour laquelle, aujourd'hui, on attaque de plus en plus, à mon sens, le Rassemblement National en disant, voyez... le Rassemblement National tantôt trop libéral, tantôt trop à gauche, on nous fait les deux procès pour des raisons tout à fait différentes. Trop libéral, trop élitiste, ça, j'ai évoqué la raison juste avant, et trop à gauche, pourquoi? Parce que le bloc central est en train de s'effondrer, et qu'effectivement il y a une reconfiguration politique, et dans cette reconfiguration politique, il y a un camp politique. Ce camp politique, c'est, Pierre-Romain l'a dit, la droite de gouvernement qui ne gouverne plus et qui a mal gouverné. Et cette droite de gouvernement, il faut bien comprendre quelque chose. En 2017, le macronisme, c'est un moment de traumatisme pour la droite française, parce que c'est vécu, et ça a toujours été vécu comme tel, comme un vol de son électorat. C'est-à-dire les personnes âgées et les revenus classe moyenne haute supérieure. Et donc, l'objectif de cette droite, qu'il s'agisse de Laurent Wauquiez, qu'il s'agissait, même quand il s'agissait de Valérie Pécresse, et demain ou aujourd'hui de Bruno Retailleau, c'est de refermer la parenthèse Macron et de récupérer cet électorat macroniste. Donc il ne faut surtout pas que le Rassemblement National en soit le bénéficiaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, et ça c'est Jean-François Copé qui le premier avait lancé cet anathème, je me souviens aux Européennes en 2014, le Rassemblement National et la France Insoumise, au fond, c'est la même chose, même programme. Le but, il est très simple, c'est de la vieille politique politicienne, c'est envoyer le message aux électeurs du centre-droit, du centre, ces anciens ou anciens électeurs, que, attention, le Rassemblement National, c'est pratiquement le Parti communiste. Voilà. Maintenant, quand on entre dans le détail du programme...
Ce qu'a dit François Hollande, d'ailleurs.
Et je termine en un mot pour laisser la parole. Quand François Hollande, ce qui est gonflé quand même, parce que c'est quand même lui qui avait quand même fait campagne en 2012 sur une ligne très, soi-disant très à gauche, mon ennemi, c'est la finance. Bon, le communisme, c'est la socialisation des moyens de production, c'est la fin de l'économie de marché. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire une émission entière pour comprendre que le Rassemblement National n'est pas pour le communisme et pas non plus pour le socialisme. Voilà.
Alors, sur Hofgaard, même question que j'ai posée à vos interlocuteurs juste avant. Est-ce que c'est un malentendu que de voir ce que je me semble voir, c'est-à-dire que le RN s'adresse davantage maintenant aux classes sociales bourgeoises, un peu moins aux classes sociales défavorisées, ou est-ce que c'est une donnée objective et qu'il est difficile de toute façon, même quand on veut réconcilier les classes et faire du plus possible d'un point de vue électoral pour essayer évidemment d'engranger le maximum de voix, est-ce qu'il est possible, honnêtement, sur le fond, est-ce qu'il est possible de concilier les classes sociales entre elles pour des intérêts qui seraient autres que partisans?
disons que c'est un problème de riches. Aujourd'hui, il existe un parti de masse en France, c'est le Rassemblement National. Donc c'est un parti qui progresse dans toutes les strates socio-professionnelles, dans toutes les catégories. Donc c'est pour ça qu'on le voit progresser chez les retraités, chez une partie des cadres que Pierre a rappelé, que c'était pas forcément son électorat, on va dire, traditionnel. Donc oui, le RN, comment dire, progresse dans toutes les strates. En revanche, petite rectification, quand on parle de bloc populaire, on ne parle pas forcément que de la classe populaire. Mmh. Je pense que ça, c'est important. Oui. Et d'ailleurs, que ce soit Jérôme Sainte-Marie de son côté ou même Paulon Barini, qui est plutôt, on va dire, l'analyste de classe, mais plutôt arrangé à gauche, en fait, on comprend bien que dans un bloc, il y a une matrice originelle, une catégorie socio-professionnelle, plutôt les employés et les ouvriers du côté du Rassemblement National, donc on va dire les CSP-, voire la petite classe populaire haute. Et donc, on voit que le but d'un bloc historique, comme le disait Antonio Gramsci, c'est de faire, comment dire, une coagulation avec différentes classes. Au moment du Risorgimento italien, par exemple, vous avez le nord de l'Italie, plutôt bourgeoisie industrielle, qui va faire une alliance de circonstances avec la classe moyenne montante, etc., pour justement occasionner cette révolution politique qu'on a connue. Et aussi, peut-être, le deuxième point, c'est que, comment dire, les paniques morales qu'on a connues par le bloc central, ça a été très bien analysé par Aquilino Morel. Aquilino Morel, c'est l'ancien conseiller politique de François Hollande, et il faut le lire, parce que je trouve que c'est l'analyste, justement, le plus objectif sur la montée du Rassemblement National des dernières années. Il le dit clairement, il y avait une critique, ou en tout cas un euroscepticisme plutôt timoré, mais en tout cas, il y avait une critique, il y avait, comment dire, une adresse notamment aux actifs, ça c'est important, si je pense dans le discours du Rassemblement National, où on oppose quelque part les actifs et les inactifs, ça a été bien analysé par un autre auteur de gauche. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parfois, les auteurs de gauche analysent mieux que nous les dynamiques qu'on retrouve à droite. Pas tout le temps, hein. Bien sûr, souvent c'est très partisan, mais par exemple, Michel Ferre, qui avait fait un livre Parasite contre actifs, ou producteur contre parasite, et qui revenait sur cette notion de producérisme, c'est-à-dire une notion qui reprend quelque part une analyse de classe, mais qui, comment dire, la nuance en mettant au centre du jeu les classes moyennes actives qui travaillent avec une pression, on va dire, par les parasites d'en haut, ceux qui vont faire de l'évasion fiscale ou ce genre de choses, et les parasites d'en bas. Et je trouve que ça, c'était une analyse plutôt fine du Rassemblement National. C'est pour ça que les qualifications de socialiste ou de communisme sont absolument fausses, en réalité. Et donc, par contre, on en arrive à cette notion qu'ont approché du doigt mes comparses, c'est qu'aujourd'hui on va arriver à la fin du macronisme, donc à cette réunion, pour faire très rapidement, de la bourgeoisie de droite et de la bourgeoisie de gauche, donc ce bloc élitaire qu'avait, comment dire, analysé Jérôme Sainte-Marie. Mais par contre, de cette recomposition, que va-t-il émerger? Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique de bloc élitaire contre bloc populaire, ou est-ce qu'il faut basculer sur une reconfiguration plutôt bloc de gauche, bloc de droite? Ouais. Et là, par contre, c'est quand même un enjeu du Rassemblement National. On sait que pendant très longtemps, la droite de gouvernement a gouverné sur un bloc de droite où on retrouvait une partie des classes populaires. Une partie des classes populaires des années 50 ou 60, c'est les classes plutôt paysannes, plutôt conservatrices. Et on sait à quel point la République, notamment des personnalités comme Clémenceau, ont pu critiquer justement tous ces même dans beaucoup d'analystes marxistes, justement cette opposition entre ouvriers d'un côté et de l'autre agriculteurs, les agriculteurs souvent renvoyés au vote Napoléon III, etc., etc. Mais par contre, ça, c'est peut-être l'enjeu de demain. Est-ce qu'il faut revenir à une volonté de reconfigurer la vie politique française entre d'un côté l'affrontement bloc de gauche, bloc de droite, ou est-ce qu'il faut continuer justement sur cet affrontement bloc populaire, bloc élitaire? C'est quand même une question. Et d'ailleurs, on voit que les deux ont des avantages et des intérêts et des inconvénients.
Alors, bien gentil.
C'est intéressant sur l'évolution, je suis assez d'accord, peut-être sauf sur la fin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vécu pendant près de 60 ans dans un système bipolaire, avec la gauche de gouvernement, la droite de gouvernement, le Parti Socialiste et d'un côté l'UMP. Ce qui fait d'ailleurs bien souvent le slogan en campagne était facile, c'est pour l'alternance. On passait de l'un à l'autre, c'est ce qui fait qu'à un moment, le Rassemblement National, à l'époque Front National, parlait, et à raison, du MPS.
Ouais.
2017 a été, je me souviens d'une conférence d'ailleurs de Patrick Buisson en 2017, c'était aux Éveilleurs, si ma mémoire est bonne, et Patrick Buisson était le seul à se réjouir de 2017, et il disait « mais réjouissez-vous, Emmanuel Macron nous a apporté la grande clarification que nous attendions. C'est-à-dire que le centre-gauche et le centre-droit pourri se sont enfin réunis, sont enfin sortis C'est-à-dire que la fausse gauche est partie, la fausse droite est partie, et enfin le jeu s'est clarifié. Et nous avons abouti donc à un système tripartite. Nous en parlons, hein. Moi je me souviens, j'en parlais il y a 10 ans avec Pierre-Romain, fut un temps quand on était étudiant, on en parlait il y a 10 ans avant que ce système advienne, mais parce que de facto, il était là sous nos yeux. Aujourd'hui, on parle volontiers de système tripartite avec le bloc central, avec un bloc de gauche et un bloc national ou un bloc populaire, peu importe comment on l'appelle. Simplement, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, et les élections municipales, d'après moi, l'ont un peu montré, c'est que le système tripartite, dans toute notre histoire politique, est un système de transition. C'est un moment de transition et c'est souvent un moment d'instabilité. Souvenez-vous, sous la 4ème République, c'est le moment du blocage. C'est le moment avec le RPF, avec les communistes, avec ce bloc central, justement, qui n'arrive pas vraiment à survivre. Et c'est systématiquement, un moment de transition. Ce n'est pas un moment stable. Et je pense que nous allons arriver, effectivement, nous allons revenir à un système, alors non pas bipartite, ça supposerait simplement deux partis politiques, mais bipolaire. Alors certains diront c'est la gauche et la droite et le Rassemblement National va devenir un parti de droite. Non, ils ne le revendiquent pas. Mais comme on va arriver à un système bipolaire, il sera tenté de dire, regardez, il y a Jean-Luc Mélenchon d'un côté, effectivement, ce sera le pôle, le parti le plus important de ce pôle, et de l'autre côté, je le pense naturellement, le Rassemblement National. Et ces élections municipales nous l'ont montré, hein, c'est-à-dire que progressivement, vous voyez bien qu'il y a ces trois France-là, elles sont en train de fusionner en deux. Vous avez les centres-villes et les banlieues, et on va devoir arbitrer un petit peu qui va l'emporter là-dessus. Et de l'autre côté, vous avez la ruralité, les petites communes. Et c'est là où le Rassemblement National a fait ses plus grandes percées. Hein. C'est dans des petites villes comme... Enfin, des petites villes, c'est dans des villes comme Menton, c'est des villes comme La Flèche, c'est des villes comme Vierzon, etc. Et Amilly, enfin, des villes de 10, 20, 30 000 habitants, c'est villes de la ruralité. Et donc, on voit... une tripartisation, mais cette tripartisation, je le dis, elle est temporaire. Donc nous allons, c'est mon propos conclusif, nous allons arriver, ou plutôt revenir, vers un système bipartite, mais qui ne sera pas, selon moi, un système gauche-droite. On pourra appeler ça gauche-droite, je pense que les acteurs ne s'en revendiqueront pas forcément eux-mêmes. Il y aura la Nouvelle France d'un côté, celle de Jean-Luc Mélenchon, et de ceux qui vont le remplacer fatalement. Et on voit que le maire de Saint-Denis aujourd'hui est clairement un prétendant pour une future élection présidentielle. Et de l'autre côté, effectivement, un bloc national populaire et qui ne se revendique pas de droite, parce que c'est reproduire les mêmes confusions que par le passé.
Pierre Gentillet, vous répondiez à Rodolphe Carte simplement sans être totalement politicien ou sans être sociologue. On peut quand même parler d'une évolution du RN ces 15 dernières années. Quand Marine Le Pen, en 2012, dit qu'elle est favorable à la suppression des parachutes dorés, des retraites chapeaux et des stock options, c'est clairement une critique du capitalisme dans ce qu'il a de plus ontologiquement négatif.
Du libéralisme.
Qui s'inscrit d'ailleurs fondamentalement dans une critique de ce que Marx appelait l'accumulation ou l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne crois pas que ce point de vue-là de Marx critique, qui ne renvoie pas forcément à la lutte des classes, ou à la société sans classe, ou à la dictature du prolétariat, mais simplement à l'accumulation du capital et du profit, et l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est une chose, je pense, que des hommes de droite
Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je crois qu'en fait, on fait une confusion entre la critique du capitalisme et la critique de la mondialisation. Moi je le crois. La critique de la mondialisation libérale, et bien souvent on confond le libéralisme et le capitalisme. Voyez-vous, hein, on peut faire les définitions ici. Hein, le capitalisme, c'est l'accumulation, hein, tout simplement, de la richesse. Le libéralisme, c'est la circulation de la richesse. Eh bien oui, le Rassemblement National et Front National avant, c'est toujours élevé contre la mondialisation libérale, contre le fait qu'effectivement, les capitaux, les entreprises ne pouvaient pas bouger comme ça n'importe comment, au détriment, bien souvent, de ceux qui travaillent,
oui,
de ceux qui
ça,
ne peuvent pas être
vue...
les nomades. Et ce discours-là n'a pas changé.
Ça, c'est un point de vue que Jean-Marie Le Pen, déjà, dans une certaine mesure à la fin... pouvait être le sien à la critique, effectivement, de la mondialisation libérale et
pas
forcément du capitalisme. Mais je vous assure qu'il y a, dans la pensée sociale anticonformiste de droite et dans ce que Marine Le Pen a pu dire au début des années 2010, dans la lecture notamment de Jean-Claude Michéard, c'est-à-dire la critique du capitalisme mondialisé, ça n'est ni plus ni moins que la congruence entre le capital, d'un côté, et la mondialisation comme forme en quelque sorte congruente qui se meuvent dans le même anthropologisme négatif libéral.
Et vous trouvez que nous sommes toujours et vous pensez qu'il y a Je pensais qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a changé sur ces questions-là il et qu'elle ne combat plus la mondialisation libérale.
Ah si, la mondialisation libérale. Bah, voilà. Je trouve que c'est
le cœur de la matrice est toujours combattu.
C'est pas clair.
C'est pas parce qu'on parle moins, comme vous dites, c'est... effectivement, des stock options.
Non, pas seulement, d'autres... pas seulement. Pas
si,
seulement.
Si, je reprends les exemples que vous évoquiez, que le Rassemblement National se fond dans la mondialisation libérale.
On peut prendre un exemple concret. Dans les critiques qui peuvent être adressées au Rassemblement National vu de droite, il y a sur l'aspect, le Rassemblement National est favorable à l'imposition d'un impôt sur la fortune financière. Justement, c'est pour vous répondre sur cet aspect qui vise justement ici à sanctionner la circulation purement financière qui et le Rassemblement National veut au contraire protéger le patrimoine financier, le patrimoine bâti, notamment les résidents, etc. Et donc il y a bien cette distinction qui est faite côté Rassemblement National dans ses propositions de prioriser ce qui est enraciné, le patrimoine familial, et plutôt justement d'aller dans les recherches d'économies qui sont à faire ou de moyens supplémentaires pour l'État, sans imposer les classes moyennes et populaires, de s'en prendre plutôt à la circulation d'un capital, cet argent qui dort, comme on peut dire de temps en temps, même si l'expression n'est pas bonne d'un point de vue économique. Donc il y a quand même cette distinction qui est faite. Mais plus largement, parce que vous parliez du contexte aussi, des années 2010, etc., je pense que, même si ça ne règle pas toute la question, mais on parle assez largement aujourd'hui, quand on parle de la mondialisation libérale, même de l'idéologie libérale, j'ai envie de dire, ouais, d'un astre mort. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, on vit plutôt les derniers moments, la fermeture, peut-être que ça brille encore un petit peu, mais je pense que c'est en train de se refermer, cette ère de cette mondialisation libérale, et que par quasiment l'intégralité de ces aspects, on est plutôt dans une phase de fermeture, dans un interrègne. J'aime beaucoup cette expression qui est de Gramsci, on reprend encore une fois, qui est utilisée aussi, conceptualisée par un institut, pour le coup très, très fédéraliste, mais le Grand Continent, mais qui écrit beaucoup sur cette notion d'interrègne. On vit cette fermeture de cette mondialisation libérale, et je crois qu'on ne peut pas décontextualiser, les enjeux ici politiques, idéologiques, nationaux, avec la situation internationale. Pas seulement l'explosion des conflits, mais déjà la crise Covid l'avait assez largement fait revenir sur le devant de la table, les enjeux de souveraineté, de maîtrise des chaînes de valeur mondiales, la volonté de rapatrier les lignes d'approvisionnement, de relocaliser la production. Alors après, à quel échelon on le fait ? On peut parler de relocalisation européenne, d'enjeux de préférence européenne, mais il y a aussi des enjeux de priorité nationale, priorité dans la commande publique. En fait, tous ces enjeux sont en train de devenir incontournables, y compris, et là il y a un phénomène de tache d'huile, y compris jusqu'au macronisme. Je veux dire, écoutez Emmanuel Macron, on peut interroger les suites de ce discours, mais au moment de la crise du Covid, il n'a jamais prononcé autant de fois le mot souveraineté en un discours que pendant l'intégralité de son premier mandat. Donc il y a une vraie aujourd'hui conquête du langage de la souveraineté, de la protection, des enjeux de stock, des enjeux de réindustrialisation, de puissance. C'est ces termes-là qui sont aujourd'hui en train de gagner, en train de s'imposer, et les programmes politiques qui se construisent autour de ces notions et de ces enjeux, alors que toute la séquence, déjà dès les années 80, mais de manière accélérée, exponentielle, après la chute du mur, après l'effondrement du bloc soviétique, toute cette parenthèse des années 90, 2000, 2010 justement, le cœur des moments où vous preniez les discours de Marine Le Pen, début des années 2010, fin des années 2000, on était dans cette période de la mondialisation libérale triomphante. Et avec cette droite de gouvernement très arrogante qui en était vraiment l'incarnation, qui avait justement largement, qui avait simplement le discours libéral de libération des énergies à la bouche, c'était voilà, tout ce qu'on pouvait entendre de la droite de gouvernement à l'époque, et cette parenthèse est aujourd'hui en train de se refermer. Et
c'est donc qu'un essayiste allemand qui s'appelle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Pabst, qui parle du post-libéralisme.
Vous me l'enlevez de la bouche, parce que j'allais l'évoquer, justement.
Qui est un catholique social,
qui
renvoie dos à dos, justement, le capitalisme libéral, et le socialisme collectiviste ou étatiste.
Qui parle de cette ère post-libérale, justement, et c'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup cette notion et je la trouve assez juste. On est dans cette ère post-libérale où il est difficile aujourd'hui de se raccrocher. Par exemple, je craignais que vous me posiez cette question, par exemple, de définir précisément par quel terme on peut qualifier la ligne du Rassemblement National.
Allez-y.
Voilà. Non, voilà. Là, je ne le pourrais pas.
Le bâton
a été
tombé.
On peut raccrocher à différentes écoles de pensée, on peut qualifier certaines mesures, certains enjeux du programme. Mmh. Mais voilà, je ne vous dirai pas aujourd'hui que ni social, ni socialiste, ni libéral, ni antilibéral, ni illibéral, etc. Mais c'est plutôt la période dans laquelle nous sommes, qualifie d'ère post-libérale, ça c'est, je pense que c'est très juste et c'est certain, et qu'il y a des recompositions qui se font autour de nouveaux enjeux, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et donc on est dans ce cadre-là.
Mais sans vouloir succomber à la dialectique purement rhétorique, on sait que la modernité a donné la postmodernité, et que la postmodernité c'est à la fois l'après-modernité, mais c'est ce qui est issu aussi de la modernité. Donc est-ce que dans le post-libéralisme, on n'a pas la même chose, c'est-à-dire à la fois un dépassement effectivement du libéralisme et de ce qu'a été le libéralisme, mais on ne fera pas l'économie non plus de ce qui vient du libéralisme et qui est transféré à l'échelle du... Voilà, donc il y a quand même une question qui se pose là sur le post. Est-ce que le post c'est l'après, ou est-ce que le post c'est ce qui suit? Voilà.
Oui, là où il y a un questionnement, et quand vous avez évoqué en introduction des penseurs que j'affectionne beaucoup, qui donnent toujours matière à penser, des gens qui se placent plutôt dans la critique de la technique, en effet,
Bernard Charbonneau, des Jacques Ellul, ouais.
Voilà, mais bien d'autres également. Ouais. Mais je crois que là, ce qui est au cœur de cette idée, et tout aussi l'école de la critique du libéralisme autour de la critique de la... Je veux dire qu'il y a une finitude du monde et des moyens, des ressources, et donc la critique de la croissance.
Ça, alors voilà, ça c'est une piste qu'il faut explorer. Voilà, est-ce que par exemple un jour, le RN pourrait, dans un élément révolutionnaire, se réclamer de la décroissance, justement, ou en tout cas de la croissance, croissance privative?
C'est pour ça que j'amène ce sujet, parce que c'est là où je voudrais dire que, côté du Rassemblement National, là, il n'y aura pas de cette critique adressée à la croissance ou aux besoins de croissance économique pour à la fois la prospérité de la nation, sa souveraineté et sa puissance. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion de puissance, parce qu'elle a été au cœur de la campagne des législatives et des européennes pour le Rassemblement National. Jordan Bardella, on a fait l'élément un petit peu catalyseur des propositions qu'on pouvait faire, de la vision qu'on avait pour la France et pour l'Europe dans le cadre des élections européennes, cette notion de puissance. Or, justement, c'est un peu le point d'achoppement de ces écoles, c'est la critique de la puissance, et où il y a une théorisation côté d'Ellul ou de Charbonneau sur justement la non-puissance. Ils mettent plutôt ça en valeur, etc. Mais aujourd'hui, je crois, dans ce monde, et pour ça que j'insiste sur les liens avec la situation internationale mondiale et les enjeux militaire de défense, je crois que cette critique adressée à la croissance, cette critique adressée à la puissance, à mon avis, est intenable et même suicidaire dans la période que nous vivons. Et donc, je crois qu'il faut là-dessus ne pas suivre les recommandations ou les critiques de ces courants philosophiques qui peuvent avoir un intérêt pour d'autres réflexions. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est très clair dans le côté du Rassemblement National, du point de vue économique, des enjeux de production industrielle, il y a une recherche d'un retour à cette croissance économique, et il y a tout un axe focalisation sur les enjeux, retrouver les moyens de notre puissance.
Donc, mais on pourrait imaginer d'être favorable à une Europe de la puissance et de l'écologie.
Oui.
Qui ne serait pas une Europe de la récession.
Bien sûr.
De la pauvreté, mais notamment de la sobriété.
C'est pour ça que j'appelais...
Donc les deux sont peut-être pas si éloignés l'un
que
l'autre.
Tout à fait. Parfaitement, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette clé d'entrée, à mon avis, thématique de l'énergie. Parce que précisément, là je vous parlerai du nucléaire, qui répond à la fois à ces deux enjeux-là. L'enjeu de puissance, que ce soit le nucléaire civil, production nucléaire, les enjeux de compétitivité, d'avantages comparatifs pour la France, en Europe et dans le monde, et enjeux environnementaux, climatiques, où c'est l'énergie la plus décarbonée, c'est l'énergie qui répond aussi... qui est la moins, j'ai pas le terme, j'allais dire moins mortifère, il y a un autre terme pour qualifier, qui produit le moins qui génère le moins de morts pour sa production, hein, qui atteint le moins à l'environnement, et où les enjeux de stockage sont un vrai enjeu, mais où, au niveau de l'innovation technologique, il y a des choses qui sont en cours, des programmes de recherche absolument fascinants pour l'avenir de notre pays et de l'humanité. Et donc je crois que cet enjeu de l'énergie, du nucléaire, réconcilie tout à fait cette ambition de puissance et cette ambition de sobriété, si on veut, des usages, ou surtout des impacts environnementaux et climatiques.
La croissance, telle que nous en parlons là, en l'occurrence, il y a eu de nombreux théoriciens, penseurs, Georges Jusko-Rogen et Serge Latouche et beaucoup d'autres, et qui consistent à dire on ne peut pas vivre dans un monde... fini avec des ressources infinies. Ce n'est pas possible, il faut... en finir avec le toujours plus qui fait finalement toujours moins de bénéfices à l'entreprise que l'on peut faire. Alors vous, quand Rodolphe Carte, vous êtes un petit peu hors RN, si j'ose dire, mais vous suivez avec intérêt le RN, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour le RN d'amorcer une, en quelque sorte une troisième économie post-libérale dans les années à venir, qui défiera d'une certaine façon tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans les vieux schémas, disons, capitalisme, collectivisme, etc., etc.
En tant que rédacteur de la revue Éléments, disons que tous ces sujets, en tout cas de post-libéralisme ou de démondialisation, c'est des sujets, ou même de décroissance, sur lesquels on a été une certaine avant-garde à Éléments, il faut quand même le reconnaître. Je me méfierais parfois des oppositions un peu faciles décroissance-croissance. J'aime bien la dialectique que Pierre Romain a esquissé avec la notion de puissance, qui est pour moi fondamentale. C'est un peu la même chose avec l'opposition capital-travail. Il faut toujours ajouter le social aussi avec. Ça marche toujours, en tout cas pas de pair, mais par une notion comme ça. Ternaire. Ensuite, Arnaud, vous évoquiez ce possible retour, qu'est-ce qu'après le post-libéralisme ? Là, je pense aussi qu'il faut faire, ou en tout cas, il faut revenir d'un point de vue historique sur la révolution industrielle. Pour moi, c'est un changement anthropologique majeur. Comme la Renaissance a été un retour à l'antique, si demain, nous devons faire un retour à notre archaïque, il ne se retrouve pas chez les antiques, même si d'un point de vue philosophique, pourquoi pas. Mais notre archaïque, aujourd'hui, il est au 19e siècle. C'est la révolution industrielle. Là-dessus, moi, je suis un adepte des thèses de Jean Vioulac, qui est un philosophe contemporain assez difficile d'entrée, on va dire, mais qui est, à mon avis, vraiment un philosophe sur lequel il faut revenir. Et le 19e siècle, la prise, la prise, comment dire, d'avance du continent européen sur l'ensemble du reste du monde, c'est une logique de développement. C'est Friedrich List, etc., etc. Et pour moi, c'est une césure complète. Jean Vioulac disait justement que le paysan du XVIIe siècle avait plus à voir avec le paysan de Virgile qu'avec le paysan du XIXe siècle. C'est un changement total, le XIXe siècle. On a une nouvelle élite qui arrive au pouvoir avec la bourgeoisie contre l'aristocratie. On a un exode rural. Alors nous, en France, disons qu'il s'est, comment dire, un peu tassé sur les décennies. Mais par exemple, vous avez des pays comme l'Allemagne où l'exode rural, en une génération, on a eu des populations arrachés justement au sol natal, à l'activité fermière, qui ont directement été mis dans les grands ensembles urbains, et on sait le développement qu'a connu l'Allemagne au moment du 19e siècle. Donc je pense qu'il faut revenir là-dessus. Et c'est pour ça que cette notion, en tout cas cette opposition, cette sortie du capitalisme, elle est quelque part souvent dans le champ un peu de l'éther des idéologies. Là, et je pense qu'il faut revenir au pragmatique. Pierre Romain l'a évoqué, c'est la question de l'énergie, c'est la question de la relocalisation. Je serais peut-être un peu plus critique que Pierre Romain sur la notion de souveraineté européenne, parce que je rappellerai quand même qu'une large partie de nos délocalisations se font intra-européennes. Je crois qu'on est dans l'ordre de 70%. Et moi, qui suis un habitant de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, l'usine historique de Dynastar qui fabriquait les skis sur lesquels peut-être vous skiez lorsque vous allez en vacances d'hiver, si vous avez encore la chance d'aller aux vacances d'hiver, qui devient de plus en plus quelque chose de bourgeois, quand avant on avait une classe moyenne qui avait pu accéder à cela, bah aujourd'hui les skis sont fabriqués en Roumanie ou en Espagne. Et c'est quand même un enjeu, parce que moi, à la limite, je préfère que ce soit des Européens qui aient de l'emploi, mais par contre, si je vais expliquer, d'ailleurs, moi je faisais mon intérim là-bas, aux ouvriers qui ont perdu leur emploi au détriment d'un Espagnol, je leur dis oui, mais quand même, sois content, ça reste chez des Européens, je pense qu'ils vont me rembarrer gentiment. Mais ça, c'est après des questions sur lesquelles on pourra peut-être revenir. En revanche, comment dire, cette notion de développement, c'est pour ça que moi j'ai été plutôt rassuré quand j'ai vu le RN s'adresser au patron. Je vous le dis franchement, moi je suis de tradition illibérale, c'est connu, plutôt dans une ligne populiste, mais par contre c'est très bien qu'aujourd'hui un parti, non pas d'alternance comme le disait Pierre, mais d'alternative, je pense que la différence est aussi fondamentale entre l'alternance et l'alternative, qu'il parle au patron, moi je trouve ça très bien. Et peut-être ce rééquilibrage entre d'un côté une fortune du pays financière, de l'autre côté industriel, parce que là aussi c'est un changement fondamental. D'ailleurs, la révolution au moment et l'arrivée de Napoléon III, c'est l'avènement aussi de cette bourgeoisie industrielle contre l'ancienne bourgeoisie plutôt financière qu'on avait connue sous Louis-Philippe. Donc là-dessus, il faut jouer avec ça. Je pense que c'est important aussi de mettre derrière nous, derrière un projet dit national, une partie du patronat, il le faut. Et d'ailleurs, il y a une personnalité qui est assez intéressante là-dessus, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un peu sorti de ses réflexes, on va dire, un peu gauchistes, même si ça lui sert très bien quand il s'agit de consolider sa base par l'antifascisme ou le pacifisme. Mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui a monté un institut, l'Institut de la Boétie, qui produit toute une série de notes où il y a vraiment des universitaires, il a des liens avec des gens de l'ENS aussi. Bon, on va pas revenir sur, comment dire, la gauchisation d'une partie de nos grandes universités ou ce genre de choses. Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, comment dire, a un discours aujourd'hui pour les petits patrons. Et lui, dans sa logique plutôt de gauche, va les opposer souvent aux grands patrons qui, par des manigances financières, vont pouvoir s'affranchir de l'impôt. Et ça, par contre, je pense que c'est peut-être aussi un avertissement à nous dans le camp national.
Mais vous savez, ça existait déjà avec le poujadisme il y a très très longtemps.
Hein. Mais d'ailleurs, plus, c'est pour ça que j'ai sorti récemment un article, et je finirai là-dessus, pour la revue Élément, sur la chavisation de Jean-Luc Mélenchon.
Ouais.
Le logique populiste de 2017, même si je pense aujourd'hui ça a réactualisé beaucoup plus teinté de Nouvelle France avec beaucoup moins de drapeaux BBR, bleu, blanc, rouge, il est assez intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il ne pouvait plus sortir, enfin en tout cas qu'il devait sortir de l'opposition verticale classe contre classe, prolétariat contre bourgeoisie. Et Jean-Luc Mélenchon, quand aujourd'hui il a un discours à cette petite bourgeoisie travailleuse de PME, etc., etc., contre justement les hauts patrons, ou en tout cas le haut patronat, c'est quelque chose, et c'est un avertissement quand même, parce qu'il est très intelligent là-dessus, il le sait, que son nouveau populisme se teinte de plusieurs choses. Lui, par exemple, va beaucoup insister sur la logique, on va dire, ethnoculturelle, avec des patrons blancs, etc., etc., contre le petit patron de banlieue, parce qu'il sait justement que cet électorat de banlieue, qui constitue aujourd'hui une partie des troupes derrière lui, est sensible à la question du capitalisme, en tout cas à la question de l'entrepreneuriat et de ce genre de choses. Quand on a plusieurs électorats dans son grand électorat, on est obligé d'avoir un discours parfois un peu circonstancié pour chacun.
Mais donc, est-ce que c'est quand même pas un peu cynique ce que vous dites, Rodovkar?
C'est le jeu de la politique.
Que ce soit Mélenchon et ce que vous dites là, ce que nous ont dit nos camarades juste avant à propos du RN et de l'évolution, s'il y a évolution post-libérale dans les temps qui viennent, est-ce qu'on n'a pas toujours justement ce sentiment qu'il faut essayer de cohérer et de faire en sorte que les choses soient recouvrantes, qu'elles puissent se recouvrir, même s'il y a des disparités et des incohérences, mais pour pouvoir quand même analyser et avoir le maximum de voix possible, se concilier finalement tous les électorats. Alors, Mélenchon va vers les petits patrons, Marine Le Pen va chez les grands patrons. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus véritablement de vision du monde et de principes qui sont bien établis, quitte éventuellement même à les transgresser s'ils étaient établis, mais plutôt à vouloir toujours essayer de faire du mixeur pour essayer de... Ça, c'est un défaut d'ailleurs qui est congénital dans la droite française. Vous avez depuis très 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 longtemps au XXe siècle, y compris chez les syndicats jaunes ou dans d'autres, ou chez d'autres penseurs de droite, etc., il y a toujours eu cette tentative ou tentation de louvoyer, de côté d'un capitalisme national, d'un libéralisme protectionniste, on essaye de... Et en fin de compte, ça ne représente pas fondamentalement et solidement, structurellement, les classes sociales telles qu'elles existent.
Je vais faire très rapide, je vois que Pierre
Fournier...
Je pense aujourd'hui qu'on a souvent glosé sur la fin des idéologies, sur la dépolitisation générale, sur le manque de culture politique, et je pense que c'est un fait. Je pense que c'est très bien aujourd'hui qu'on sorte même à droite d'une forme d'idéalisme en balançant des grands mots à travers longueur de micro, ce genre de choses. Je pense que c'est très bien. Par contre, en revanche, ce qui va revenir dessous, c'est la force des mythes mobilisateurs. J'ai fait
Sorel.
Voilà, exactement, sur Sorel. Et par contre, là, ouais, deuxième avertissement, Jean-Luc Mélenchon, c'est très bien joué sur les mythes mobilisateurs. Mythe palestinisme, Rima Hassan, il l'incarne. Mythe antifasciste, Raphaël Arnaud, derrière ce bloc qu'ils ont fait, milice fasciste qui a complètement tué Quentin Doranque. Mythe de la Nouvelle France, Monsieur Bagayoko. Et très intéressant là-dessus, Jean-Luc Mélenchon sait à quel point il faut aussi s'adresser aux affects des populations. La fin des idéologies va peut-être nous faire un retour en force de la tripe, ou en tout cas de la passion et de l'affect. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre pour argent
comptant. D'où le post-libéralisme, justement, qui oui. pourrait être en gestation aujourd'hui, qui pourrait faire émerger demain une troisième voie qui n'est pas celle que nous connaissons jusqu'à maintenant à travers les vieux schémas réducteurs et stériles qui ont été véhiculés par la gauche ou par la droite. Pierre Gentillet, vous voulez répondre à...
Je voulais réagir sur plusieurs choses, que beaucoup de choses ont été dites.
Et tout ce qui a été dit.
Sur ce que disait Rodolphe, sur ce que tu évoquais sur Jean-Luc Mélenchon, moi, je n'ai pas le même ressenti. C'est-à-dire que j'ai au contraire l'impression, et suivant de très près les médias de gauche, je veux dire que je m'informe plus en ce moment en regardant des médias de gauche que des médias de droite.
Non, mais c'est tous pareil. Hein.
C'est vrai. C'est important de comprendre comment est-ce que fonctionne l'adversaire. J'ai au contraire le sentiment que Jean-Luc Mélenchon se rééduquait. Plus Jean-Luc Mélenchon est haut, parce que du chemin a été fait depuis... c'était pas la France Insoumise à l'époque, c'était...
le Parti de Gauche.
Le Parti de Gauche.
Ou le Front de Gauche.
Front de Gauche, c'était le vocable que je cherchais. Et aujourd'hui, où on voit bien qu'il est en capacité, probablement, d'être au second tour de l'élection, eh bien, plus il est haut, plus il peut se rapprocher du pouvoir, eh bien, plus il se radicalise. Il y a quelques jours, je crois, un peu moins d'une semaine, est sorti un entretien, une discussion, à égalité d'ailleurs, de près d'une heure et demie entre Frédéric Lordon et Jean-Luc Mélenchon.
Je l'ai écouté d'ailleurs.
Et cette discussion est très intéressante parce que on voit que c'est vraiment la discussion entre Frédéric Lordon, qui est un communiste, voilà, qui ne croit pas à la solution douce, et Jean-Luc Mélenchon, qui indique à son interlocuteur, peut-être pour le séduire, mais c'est une séduction publique, que lui aussi est pour la rupture avec le capitalisme, mais il ne se fait pas passer pour un social-démocrate. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « je crois à une transition douce ». Il dit « je verrai », ce sont exactement ces mots, « je verrai en fonction de l'humeur du pays, en fonction de ce que les gens », il utilise souvent cette expression « les gens ». C'est un peu indifférencié, vous voyez, ça, c'est typique de la gauche, on va indifférencier comme ça les gens.
C'est Ségolène Royal qui disait « les gens ».
Oui, voilà. on verra en fonction de l'humeur des gens. Mais on comprend aussi que ce qu'il dit derrière, c'est la rupture totale et définitive, progressive ou non, avec le capitalisme. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui est probablement au second tour demain de l'élection présidentielle, il n'est pas du tout en train de se centriser, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, regardez au moment où l'affaire Quentin est intervenue, on en parlait juste avant, Jean-Luc Mélenchon, il a soutenu, et d'ailleurs depuis un certain temps, la Jeune Garde. Il s'est affiché aux côtés de la Jeune Garde.
Mais est-ce qu'il peut pas jouer sur les deux côtés? D'un côté sa base, et de l'autre côté essayer de s'ouvrir.
Eh bien, à un milieu, c'est difficile de faire coïncider les deux.
C'est
en fait.
Compliqué. Ouais. Là, pour le coup, en termes de communication, c'est là, on parle que de la communication, hein, mais c'est très compliqué de faire coïncider les deux. Je pense que sur un plan purement tactique, je pense que Jean-Luc Mélenchon fait peut-être aussi ça, avec une arrière-pensée qu'il ne faudrait surtout pas, maintenant qu'il a pris le monopole à gauche, qu'une gauche sur sa gauche émerge. Et il la voit bien aujourd'hui dans les quartiers dits quartiers populaires, c'est-à-dire, parlons français, les banlieues, qu'il pourrait y avoir effectivement une gauche remplaçante de sa propre gauche. Donc peut-être qu'il y a un calcul. Ensuite, et enfin, peut-être plutôt une dernière chose, sur le libéralisme. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de libéralisme à tout bout de champ. Je suis un juriste, je suis un avocat, et il me semble qu'à l'origine, parce que vous posiez la question de savoir est-ce que le RN est libéral ou pas libéral, c'est une question, j'ai l'impression, ça fait 10 ans, plus que ça, 15 ans qu'on l'entend. Mais le libéralisme, plus encore, le libéralisme, c'est avant tout une philosophie politique et même une philosophie juridique, si vous voulez tout
moi,
savoir.
Je parlais d'anthropologie.
Et il me
hein.
semble, oui, bah, même, si vous voulez qu'on parle d'anthropologie du libéralisme, je pense que, alors là je peux vous donner peut-être un élément de réponse, je pense que jamais, c'est mon idée, jamais, en l'état, le RN ne peut pas, s'il veut appliquer son programme, être totalement libéral. Je ne parle pas de l'économie, je parle vraiment du libéralisme.
Ah oui,
je vous donne un exemple, mais un exemple pour moi principiel, j'en ai longtemps parlé.
Je le vois venir.
Bah bien sûr, je me connais un peu. Hein. On ne peut pas arriver aux responsabilités avec, je dis on, le Rassemblement National, le programme que nous avons, sans opérer une rupture, certains l'ont appelé une rupture illibérale, peu importe les termes, mais effectivement une rupture avec l'usage du référendum. Vous voyez, le fait, et c'est ce qu'a fait le général de Gaulle en 1962, le fait d'utiliser le référendum, oui. Le fait de passer par-dessus les décisions arbitraire de juges non élus, je pense notamment bien sûr au Conseil constitutionnel. Le fait d'utiliser cette arme juridique concrète par-dessus les normes juridiques abstraites, voyez, là résonne dans mon vocable du Kelsen et du Carl Schmitt, c'est une manière aussi de s'affranchir du paradigme libéral. Donc de toute façon, si le RN veut appliquer ce pouvoir, si nous voulons appliquer son programme, il faudra cette rupture. Et cette rupture par le référendum, c'est le moment le moins libéral, le moment illibéral comme vous voulez, du mandat à venir, du mandat que moi bien sûr je souhaite. Donc on ne pourra pas dire que le RN est libéral à ce moment-là.
Donc,
démocratie. C'est le moment le plus important.
Démocratie participative contre démocratie représentative.
Oui, c'est totalement.
Et
c'est
anthropologie
important.
De l'homme dans ses communautés.
Même plus
et
que
dans
ça.
Une vision du monde plus large qui englobe le cosmos.
Et
si
même,
je veux dire.
Et même plus encore que ça. Et même plus encore que ça. Parce que l'opposition avec la démocratie représentative, pour moi, ça va au-delà l'usage ici du référendum. C'est pas seulement démocratie référendaire contre démocratie représentative. C'est la supériorité de la décision politique référendaire sur les normes, sur les règles abstraites qui ont été posées de telle sorte qu'aujourd'hui elles sont interprétées à l'envi par des juges. Vous voyez, ça, là, on retrouve le vieux paradigme qui a été pointé, et là-dessus, j'ai cité des auteurs, mais qui a été pointé aussi, bien avant nous, par les penseurs, je pense à Joseph de Maistre, et aussi par les auteurs de la Révolution conservatrice. Ce paradigme dans lequel nous vivons, certains diront depuis 100 ans, d'autres depuis plus de 200 ans, à un moment, nécessairement, il faudra le briser.
Bobino, nous nous retrouvons tout de suite après.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, nous nous retrouvons donc pour cette émission du jeudi, pour une émission consacrée au programme du Rassemblement National, est-il social, socialiste ou libéral, montrant d'ailleurs que ces trois termes ne sont pas forcément satisfaisants dans les réponses qui ont été apportées par les invités jusqu'à maintenant. J'ai invité Pierre-Romain Thionnet, député européen RN, membre des commissions Défense et Affaires étrangères. Il est aussi directeur national du RNJ, mouvement de jeunesse du RN. Pierre Gentillet, avocat, il a été candidat RN aux élections législatives en 2024 et il est actuellement conseiller municipal à Argenton-sur-Creuse. Rodolphe Carte, enfin, collaborateur à la revue Léman, il est l'auteur notamment des ouvrages Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur, aux éditions
La Nouvelle Librairie.
Voilà. Et Faire Légion pour un réveil des autochtones,
aux éditions Etheri.
Voilà, exactement. Alors, il y a plusieurs questions, plusieurs remarques des auditeurs. Je vais les lire les unes après les autres. Il y a évidemment des questions un peu provocatrices. Alors, celles qui sont trop provocatrices, je ne les lirai pas parce qu'elles sont illisibles.
Et on pourra les lire après, par contre.
La loi Guesso m'interdit de pouvoir les lire, malheureusement. Mais en gros, on affirme que le RN aurait des options sur le conflit proche-oriental à sécessionniste. Bon, ça.
Je peux y répondre.
Ouais, bah, allez-y. Oui. Alors, allez-y, carrément.
On assume de sortir totalement du sujet.
Bah, ouais, là, oui, en quelques minutes.
Non, mais on peut y répondre et parler d'une situation très actuelle. Et je vais me référer à une déclaration qui date pas plus tard qu'hier soir. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, était au JT de France 2.
Ouais.
Où justement, il a parlé de la situation internationale et en particulier du Liban, où il a tenu justement à envoyer un message de solidarité au peuple libanais, à l'État libanais aussi, et je vais insister sur cette notion, puisque précisément, si la personne qui pose la question veut sous-entendre ou dire très clairement qu'il y a un soutien inconditionnel à toutes les options diplomatiques de l'État d'Israël, c'est faux en l'occurrence.
D'accord.
En prenant typiquement l'exemple du Liban, où le Rassemblement national, par les déclarations de Marine Le Pen et Jordan Bardella, s'affiche en soutien au Liban, à son intégrité territoriale, et au rôle de la France qui a joué en soutien à l'État libanais pour réaffirmer sa souveraineté sur l'intégralité de son territoire jusqu'au sud du fleuve Litani, où là, aujourd'hui, les forces israéliennes ont pénétré et continuent aussi de bombarder la population libanaise. Donc,
et est-ce que la souveraineté des États, notamment de l'État iranien, est aujourd'hui reconnue par le RN comme étant un État qui a été foulé aux pieds par une ingérence coloniale américaine et israélienne, ou est-ce qu'il estime qu'il ne prend pas parti dans ce débat, si j'ose dire, pour pouvoir se prononcer? Est-ce qu'il va plus loin, en fin de compte, que les positions qui sont les siennes sur le Liban?
En l'occurrence, sur l'opération israélienne américaine en Iran, nous, là encore, je ne préfère pas plus tard qu'aux déclarations d'hier soir, mais à celles des jours précédents, nous, on souhaite leur fin.
Voilà. D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, on parle de nécessaire cessez-le-feu et de ces négociations. Bon, on sort totalement du sujet, mais j'y réponds quand même. Parce que si on prend très concrètement les deux aspects qui sont au cœur aujourd'hui des objectifs affichés par l'administration Trump, c'est la réouverture du Détroit et le contrôle du nucléaire iranien. Avant cette campagne de frappe israélo-américaine, il y avait une liberté de circulation dans le Détroit. Et en 2015, il y avait un accord de Vienne sur le nucléaire iranien, dont la première administration Trump a foulé cet accord et en est sorti en 2018, ce qui fait que le régime des Mollahs a pu poursuivre un programme d'enrichissement accéléré ces années-là. Donc, voilà, je crois que les deux conditions, en tout cas les deux objectifs que souhaitait cette administration américaine existaient avant les erreurs et les dérives, les choix néfastes de l'administration américaine.
Ouais. Merci. Alors, on revient à notre sujet central. Vous semblez oublier la complexité du monde actuel et vouloir désinventer le siècle passé. La complexité des productions actuelles rend forcément les nations indépendantes les unes des autres, a fortiori pour des pays qui n'ont ni énergie bon marché, ni ressources minières, ni capacité intellectuelle, comme le sont devenus les pays d'Europe. C'est cette complexité niée qui a fait s'écrouler l'URSS que vous semblez vouloir reconstituer. Alors là, il va falloir se lever tôt pour pouvoir nous prouver ce que vous dites, cher auditeur. Si un entrepreneur ou une société ne trouve pas une balance positive à produire quelque part, il déménage ailleurs, là où c'est plus favorable. Bien sûr, il reste la dictature refermée, autarcique, produisant la pénurie. Mais même la Corée du Nord cherche à sortir de cette situation qui lui a été imposée par l'histoire. Lire trop de cerveaux creux nuit à la compréhension du réel. Est-ce qu'une telle collection polémique ou remarque polémique appelle une réponse polémique?
Mais je veux bien y répondre. Je ne sais pas d'ailleurs si elle m'a adressé. Je pense que
c'est un plateau. C'est groupal.
À vous-même également.
Ouais, oui.
Non, mais ce que nous dit la personne, l'auditeur, et ça s'entend parfaitement, c'est une vraie question, c'est à quel point l'autarcie est-elle possible, l'indépendance. Quels sont les degrés d'indépendance, de souveraineté dans ce monde aujourd'hui qui reste, malgré la crise, cette ère post-libérale comme on l'a définie, malgré cette crise de la mondialisation libérale, qui reste tout de même, en effet, un système d'interdépendance. C'est très clair. Et on ne prétend, quand on parle d'indépendance nationale, ici, on parle en vérité, on parle de certaines autonomies militaires françaises, par exemple. Indépendance ne veut pas dire maîtrise pleine et entière de l'ensemble des moyens de A à Z, de 100% des sources matérielles, technologiques, capacitaires, organisationnelles, etc. Donc, je crois qu'on est plutôt dans une ère des interdépendances choisies. Mmh. C'est ça, peut-être, la rupture avec la période précédente où il y avait plutôt une vision très naïve, angélique des dépendances. On les estimait purement cloisonnées sans forcément des conséquences politiques à ces dépendances, des conséquences diplomatiques ou militaires. Aujourd'hui, on est dans une toute autre période qui s'est ouverte. Et je crois qu'il faut choisir nos dépendances et les partenaires envers lesquels on a des dépendances. On estime que les conséquences seront bénignes, voilà, sur notre capacité à prendre des décisions, sur notre liberté, notre souveraineté. Donc, le monsieur, l'auditeur a raison, dans le sens où on ne recherche pas une souveraineté absolue, dans le sens où il n'y aurait pas d'échange et de besoin d'importation, de transactions avec des partenaires. Simplement, on est dans une ère des affinités diplomatiques qu'il nous faut choisir. Vers quel partenaire on accepte des dépendances? Et ça, c'est une question essentielle. Et je rejoins cet auditeur, bien sûr.
Et bien gentil.
Et surtout, en un mot, parce que j'approuve tout ce qu'a dit Pierre-Romain, bien sûr, mais c'est que cette espèce de petit discours, enfin, ce discours-là, pardon, je ne veux absolument pas être irrespectueux pour l'auditeur, mais ce discours, comment dire, c'est comme si, il y a deux siècles, si vous voulez, on n'avait pas d'échange, on n'avait pas de connexion entre pays, quoi. C'est pas la mondialisation qui a inventé les échanges, qui a inventé même le principe des dépendances. Et il y a deux siècles, ou même il y a un siècle, on commerçait. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu, on n'a pas attendu la mondialisation. Simplement de dire, à un moment, on veut réguler un petit peu le curseur de ce qui entre, de ce qui sort, en fonction de nos besoins, en fonction de la situation sociale du pays, en fonction des éventuelles délocalisations, vous voyez, le simple fait de pousser ce petit curseur, ça fait peut-être pousser des cris d'orfraie. Moi, je pense que c'est sain, justement, pour comment dire, pour traverser les turbulences du monde. Vous voyez, et puis après, on réouvre un peu le curseur. C'est, pour moi, c'est comme ça qu'une gestion intelligente devrait se mener, et pas simplement cette vision binaire, soit tout ouvert, tout fermé. C'est-à-dire, soit l'Union soviétique, soit la Somalie. Enfin, j'en sais rien.
Quoi. Soit le communisme, soit le libéralisme.
Voilà, ouais. Soit le libéralisme. C'est bien souvent, d'ailleurs, c'est bien souvent un discours qui vient des libéraux, qui n'ont systématiquement que deux neurones. Un neurone droit, le libéralisme. Un neurone gauche, le communiste. Et en dehors de ça...
Oui. Et d'ailleurs, on peut prendre l'exemple à la fois de la Chine ou même des États-Unis, qui sont deux systèmes dits opposés. Si vous êtes une entreprise et que vous avez des velléités qui vont contre les intérêts de votre nation, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, je vous souhaite bon courage justement pour, comment dire, vous opposer à votre État. Donc, Pierre l'a très bien rappelé, justement, une politique de développement n'est pas une politique autarcique. Ce n'est pas se couper de ses voisins directs.
C'est pas la Corée du Nord, quoi. Voilà, comme on l'entend souvent dans des débats.
La protection, c'est un filtre, ça n'est pas un mur.
Exactement, voilà, exactement.
Ça n'est donc ni l'autarcie, ni la fermeture.
Et je ne sais pas si la personne a comment dire, indiqué son âge. Je vais être un peu provocateur, nous, nous sommes plutôt jeunes. Et,
trentenaire. Et vous êtes trentenaire.
Que nous remettent les clés de la Maison France entre nos mains. Et nous, on a quelques plans pour essayer de redresser notre pays, en tout cas.
Alors, il y a un message un peu ironique, je pense qu'il s'adresse à vous, Rodolphe. Que de louanges à Mélenchon dans cette émission, il a tout compris, il est intelligent et même libéral. Alors, il y a bravo. Alors, évidemment, il y a de l'ironie, j'ai bien compris dans le message de cet auditeur. Le fait de pouvoir dire que Mélenchon est intelligent ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec lui.
Le problème, en réalité, Arnaud, vous ne l'avez pas cité, mais mon dernier livre était une biographie intellectuelle et critique de Jean-Luc Mélenchon. Il y a différents portraits. Pour moi, le portrait principal est celui du stratège. Jean-Luc Mélenchon a construit son parti, la France Insoumise, pour que ce soit une fusée électorale qui lui permette d'arriver non pas au second tour, mais au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, il a le traumatisme de 2002, où Jospin avait déjà joué le second tour avant le premier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est sa stratégie du socle de resserrer ses troupes. Son seul objectif, on le sait, que le seuil de qualification sera relativement bas pour le deuxième candidat. Normalement, Jean-Luc Mélenchon fait tout pour accéder au second tour. On peut aussi continuer à ne pas lire le camp d'en face, à essayer de ne pas les comprendre en disant que ce sont des imbéciles. En réalité, moi, j'ai lu tous les livres de Jean-Luc Mélenchon, j'ai lu ses évolutions, j'ai analysé ses évolutions. C'est un homme qui pense la politique, que ça plaise ou non. Il a un projet pour mon pays et pour mon peuple qui me déplaît. Donc j'essaie de le décrire de la manière la plus objective pour la combattre de la manière la plus efficace. C'est aussi simple que ça. Et en revanche, je sais lui reconnaître certaines qualités quand elles sont objectives. Dire que Jean-Luc Mélenchon est un bon orateur est un réductionnisme dont il faut se sortir. Il n'est pas que ça. Il a une vraie stratégie de conquête du pouvoir. S'il arrive au pouvoir, je pense que là, on va traverser de vraies turbulences en France. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de l'analyser de la manière la plus sérieuse possible.
Alors, message qui vous est adressé, Pierre Gentillet. Ce qui est critiquable au niveau de ce genre de capitalisme mondialisé, ce sont les avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises qui ont bien souvent ont les pieds à l'étranger et la bouche ouverte sur la France. Et qu'avec le jeu des holdings et je ne sais combien de combines autorisées de ce genre, ces entreprises peuvent obtenir des capitaux immobiliers titanesques ainsi que des réductions de charges, ce qui leur permet ensuite à tous ces présidents de grandes entreprises de se barrer avec de plus en plus de parachutes dorés justement. Mais ces déductions obtenues par ces entreprises, il faut bien que quelqu'un compense le manque à gagner de l'État et qui en plus de faire des cadeaux à ses petits copains mondialistes rackette les classes moyennes pour compenser la perte sciemment souhaitée par l'État, etc., etc. Donc on a là
c'est pas mal parce que finalement, vraiment en un mot, c'est-à-dire que dans ce propos, on parle beaucoup de capitalisme, mais en fait, finalement, ce qu'il reproche, c'est pas le fait d'avoir un capital important, un capital, c'est le principe accumulé, mais le fait que ce capital soit fluide et libre et qu'il puisse, comme ça, du jour au lendemain, s'évaporer. Et en même temps qu'un capital s'évapore, ça peut être une entreprise, une usine qui ferme. Voilà, c'est ça. Et le problème, en fait, c'est pas un problème nouveau. Hein. C'est le capitalisme financiarisé. Hein. C'est ce monde de l'abstraction, de la circulation, du fluide sans contrôle. Et finalement, la question qui est toujours posée, c'est pour ça que je fais toujours cette distinction, et c'est pas une guerre picrocolline, hein, c'est une guerre, une vieille dispute entre le capitalisme et le libéralisme. Je pense pense que le sujet, c'est pas le capitalisme, le sujet, c'est pas la richesse, c'est la question de la liberté de circulation, de la liberté des flux. Et de ce point de vue, effectivement, le problème, entre guillemets, en tout cas ce qu'il faut réguler et ce vers quoi il faut aller, c'est vers la fin de l'ère de la mondialisation libérale. Je pense honnêtement qu'on est déjà, depuis quelques années, depuis l'élection de Donald Trump, depuis d'autres élections en Europe, on est déjà dedans. On est déjà dans cette ère.
Oui.
Je voulais rebondir à la fois sur l'intervention de Pierre Gentil avant qu'on ait eu le petit moment de pause. Mais justement, l'importance aussi, qu'on ne se focalise pas uniquement sur des enjeux économiques, et en effet de replacer cette question de le RN est-il un parti libéral, aussi sur cette unité aussi philosophique du libéralisme. On a évoqué, je ne sais plus si on a cité le penseur Jean-Claude Michéa, mais justement, ouais, qui quand même s'il ne l'a pas inventé cette analyse du libéralisme, mais qui en a rappelé, et avec un certain talent d'écriture, l'unité fondamentale entre sa partie.
Des fondements unitaires, voilà, du libéralisme.
Exactement.
Libéralisme culturel, libéralisme économique, libéralisme politique.
Ça, c'est essentiel. Et où je voulais en venir aussi, c'est Alain de Benoist aussi a écrit un essai contre le libéralisme, et dans lequel il apporte un élément où il dit il ne suffit pas de dire qu'il y a tel pourcentage de prélèvements publics dans un pays pour en faire un. Pour le qualifier de communiste ou de socialiste. Mais je voudrais aussi renverser la chose en venant aux attaques qui peuvent être faites sur le RN abandonne son programme social, abandonne le soin, l'attention apportée aux classes moyennes et populaires, et donc va vers un programme libéral. De la même manière, des mesures en faveur des entreprises, des TPE-PME, des mesures visant à critiquer la bureaucratie, le poids des normes, etc., ne permettent pas de qualifier de libéral un programme politique, un projet politique. Je pense que ça, c'est important d'avoir ces deux pieds-ci dans cette vision globale du libéralisme. C'est-à-dire que si on se sert et on s'appuie sur les mesures que propose le Rassemblement national en faveur des entreprises, en faveur de l'allègement de certaines charges, en faveur de la liberté d'installation, etc.
Liberté d'entreprendre, voilà, qui n'est pas l'apanage des libéraux.
Exactement. Voilà. Mais parfois, il y a cette fixette-là. Là, qui vise plutôt ici à répondre aux attaques de ce que certains journalistes utilisent ou que certains à gauche vont plutôt reprocher au Rassemblement national d'abandonner cette vision de protection, de soins aux classes populaires. Mais je pense que c'est important d'y répondre, c'est-à-dire que ça ne se fait pas un programme libéral, c'est en fait des mesures, on peut les appeler pro-business, en faveur de la liberté d'entreprise, je ne sais quoi, mais ce ne sont pas des mesures libérales. Et je voudrais aller plus loin, c'est que précisément, sur certains aspects, par exemple l'hôpital public, mais aussi le secteur de l'énergie, j'en aurais beaucoup parlé, mais je crois vraiment essentiel pour prendre cette clé d'entrée l'enjeu libéral. Ça, c'est l'apport d'autres penseurs, David Graeber notamment, sur la bureaucratie, mais également Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, l'évoquait. C'est que ce libre marché et cette vision du laisser-faire, laisser-passer, a été institué par l'État. C'est pas une création spontanée, mais c'est une. On institue. Cette
on désencastre
liberté,
l'individu de ses communautés.
Par le haut. Et c'est que ce libre-marché, ce laisser-faire, ce libéralisme a été institué par l'État. Et c'est l'autre apport de ces deux auteurs en particulier. Et s'accompagne d'une bureaucratisation et d'une prolifération
normative.
Des normes, des règlements pour encadrer et assurer ce laisser-faire, laisser-passer. Et pourquoi je prenais l'exemple de l'hôpital public de l'énergie, c'est que précisément quand on a libéralisé le secteur de l'énergie, quand on a fait cette guerre au monopole public, la Commission européenne et gouvernement français main dans la main, on a fait proliférer le nombre d'opérateurs, de fournisseurs d'énergie et le nombre de paperasses, de normes, de réglementations au détriment d'un acteur, pour le coup, étatique ou public, EDF, qui se trouve dans des difficultés importantes aussi. Et également, là c'est tout l'enjeu des réglementations, mais de fixation du prix de l'énergie, où ce libre marché se fait aussi aux dépens de la compétitivité économique et des intérêts de nos industriels. C'est pour ça que nous proposons au Rassemblement national de sortir de ces règles de fixation du marché de l'énergie au niveau européen, qui sont totalement dans la matrice de l'idéologie concurrence libre non faussée, guerre au monopole de l'idéologie libérale au point de vue du marché. Et sur l'enjeu de l'hôpital, de même, ce sont toutes les réformes des années 2000, début 2010, mais surtout les années 2000, tout ce New Public Management, toute cette idéologie libérale de la gestion des organes, des acteurs publics qui ont aussi créé ce désarroi aussi du personnel hospitalier, mais toutes ces règles, cette bureaucratie, cette réglementation, cet encadrement de ce New Public Management qui devait rentabiliser au maximum les activités, les heures de travail, etc. Et donc, l'hôpital public, le secteur public, pâtit aussi des réformes qui ont été instituées au nom de l'efficacité. Donc, tout ça pour prendre qu'il y a plutôt, au contraire, il y a une rectification des erreurs du libéralisme dans certains secteurs, dans notre programme.
Vous croyez par exemple qu'actuellement, Bardella, Marine Le Pen et le Rassemblement National, contre un certain étatisme étouffant et un libéralisme déchaîné, ne seraient pas défavorables à ce qu'il y ait des besoins de care, vous savez, de soins ouais. apportés à l'autre, c'est-à-dire de gratuité, de dons et de contre-dons, que les choses ne sont pas forcément intéressées au point de vue marchand dans un échange de l'un par rapport à l'autre, et que la prédation est forcément, ou de la domination sont forcément les critères exclusifs de l'économie des individus dans une même société. Il y a peut-être ce troisième terme qui est de faire que les hommes au sein d'une communauté redeviennent eux-mêmes par les communautés auxquelles ils appartiennent et contre cette espèce de double déracinement marchand d'un côté et étatique de l'autre.
Oui, l'importance du soin, du care. On dit en effet le care, j'espère ne pas devoir contribuer.
Ouais, je ne sais pas si c'est care.
Oui, c'est entré.
Il y a un cochon au milieu. Si on dit en anglais, on dit une pièce dans le cochon.
David Goodhertz qui parlait aussi de l'importance de la main, du cœur et du cerveau. Ça va faire une nouvelle trifonctionnalité de la vision de l'ordre économique et politique. Et... je crois, mais en revanche, là où il y a une limite sur ces enjeux de soins, en effet, de contribution non marchande
au
bien commun, voilà, c'est tout de même qu'il y a un vieillissement très accéléré de la population française, en plus un certain appauvrissement aussi de certaines populations âgées, certaines ont un train de vie très confortable, il y a toute l'ère des baby boomers, mais il y a aussi un appauvrissement de certaines personnes âgées, des difficultés en termes aussi d'accès aux soins des personnes âgées. Et donc, cet enjeu de la gratuité ou du bénévolat du soin va quand même poser certaines difficultés, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnel dans les métiers du care, du soin. Et donc, il y a aussi un besoin tout de même de rémunération. Ça ne peut pas être simplement bénévole et non marchand. Je veux dire, ça va devenir aussi un secteur qui aura besoin de peut-être davantage être organisé aussi et rémunéré, parce que ça va prendre une place très importante et croissante.
Laissons au privé ce qui est au privé, au public ce qui est au public, et laissons à l'associatif ce qui peut éventuellement servir de trait d'union, d'une certaine façon. Alors, il y a un livre qui est paru il y a quelques mois, les mémoires de Marion Maréchal, qui m'ont un peu étonné dans un de ses développements. Elle écrit qu'au sein de la mouvance nationale, elle a toujours incarné une mouvance, dit-elle, pro-business. Alors, je me suis demandé au départ si c'était ironique de sa part, si c'était un clin d'œil ou si elle était sérieuse. Je crois que c'est un petit peu tout ça en même temps. Est-ce que au sein de la mouvance nationale, peut-être Marion Maréchal, mais d'autres personnes au sein du mouvement national, ont-ils une inclinaison particulière pour cette espèce de business qui est a priori considéré aujourd'hui comme le big other, quoi.
C'est à moi que s'adresse la question.
Entre autres.
Oui, honnêtement, je n'ai pas lu le ouvrage, donc je ne sais pas exactement dans quel cadre c'était ou quel était l'objectif de cette partie-là.
Oui, c'est à la fin de ses mémoires, si tu t'appelles Le Pen.
D'accord. Non, mais je pense que, à mon avis, ce que veut dire Marion Maréchal, c'est qu'elle a peut-être insisté davantage que d'autres dans les années où, je ne sais pas si elle parle des années où elle était élue, peut-être sur l'enjeu justement de...
Je pense que c'est lié à aujourd'hui, en fait.
Des mesures liées à ce monde entrepreneurial, aux patrons, les notions de liberté d'entreprendre, les enjeux de charge,
etc. Je pense que c'est aussi une manière un peu décomplexée de dire les choses de manière un peu souriante en disant « Ah, voilà, vous critiquez le business, ben moi je vais vous dire, je défends justement le business parce que c'est ça qui est efficace. » Mais après, on peut se poser la question de savoir si les idées qui sont les tiennes en matière économique et sociale, qui rejoignent effectivement un vrai libéralisme, sont bonnes ou pas. Ça, c'est la question qui se posera peut-être dans les années à venir.
Après, sur ce sujet, je pense que Marion Maréchal marche quand même sur ces deux jambes, puisqu'elle fait aussi partie des personnalités qui ont une vision conservatrice de la société et qui parlent aussi des enjeux aussi de l'extension... la logique marchande à tous les pans de la société et qui se montre critique justement, là plutôt sur les enjeux bioéthiques, sociétaux, de l'extension de la logique marchande et là pour le coup de la face culturelle du libéralisme. Michel. Je crois qu'elle fait partie tout de même des personnes qui en ont parlé, qui continuent à en parler. Donc, je pense
elle est attachée aussi à la doctrine sociale de l'Église. Elle est catholique, oui, oui. Elle ne s'en cache pas, et la doctrine sociale de l'Église pour elle compte évidemment.
Ok. Là-dessus, elle aurait des billets à porter.
On pourrait peut-être un jour lui poser des questions sur cette expression, non pas en tant que commissaire politique, mais en tant que libre, pour savoir si c'était véritablement de l'humour ou si c'était véritablement sérieux. Rodolphe Carte, par rapport à tout ce qui a été dit, on va arriver là à la fin de notre émission. Est-ce que vous croyez, alors vous trois d'ailleurs, Pierre Gentillet, Pierre-Romain Thionnet et Rodolphe Carte, est-ce que vous croyez que le RN, dans les années à venir, dans le cadre d'un post-libéralisme, va devoir pouvoir en tout cas réajuster le tir et savoir si, à défaut d'être social, socialiste ou libéral, ce qu'il va pouvoir être, et qu'est-ce qui va vous... Évidemment, c'est le terme qui pourrait définir, mais c'est aussi savoir quelle est la doctrine qui pourrait permettre au RN d'avoir une véritable singularité, d'avoir une véritable stature qui permette à penser qu'on puisse gouverner à partir d'un programme social et économique cohérent. Est-ce qu'il y a une dynamique qui doit s'enclencher à partir d'un axe particulier, à votre avis, sur cette question économique et sociale?
Je pense que j'ai parlé à plusieurs reprises de cette notion, mais je pense qu'elle sera quand même une des clés de compréhension, ou disons, les deux angles globaux du programme du Rassemblement National sont quand même assez identifiés ou vont l'être davantage. L'enjeu, évidemment, de la protection de la communauté nationale, sur les enjeux, en effet, immigration, sécurité, identité. C'est d'ailleurs une autre critique qui peut être adressée à la logique libérale politique de concevoir simplement un parc humain indifférencié où, finalement, il n'y a pas de distinction non plus ni entre national ou non-national, etc. Voilà, aussi un autre angle qu'on a moins abordé au cours de cette émission, mais la conception de la communauté nationale aussi, avec une conception aussi culturelle de cette conception de cette communauté nationale. Ça, voilà, c'est évidemment une question essentielle et qui reste un socle au Rassemblement national et qui aussi sera certainement dans le cadre ou non d'un second tour face à un Jean-Luc Mélenchon, qui sera évidemment une question clé des débats politiques et du clivage politique à venir. Et ensuite, cette notion, bien sûr, de puissance, et je crois qu'il est un axe qui répond à une partie des questions qu'on a pu avoir aujourd'hui, qui est de la mise au service de cette notion de puissance, des enjeux aussi économiques, productifs, industriels, et qui, cette puissance contient aussi cette critique de la mondialisation libérale précédente, puisqu'elle a besoin de s'asseoir sur une souveraineté, sur une maîtrise des ressources, sur une maîtrise des chaînes de valeur, une maîtrise des technologies, la notion de souveraineté, la notion aussi d'autonomie. On pourrait faire tout un débat sur les différences entre souveraineté, autonomie, indépendance, c'est pas trois notions exactement.
Et on retrouvera le fédéralisme qui serait au milieu finalement d'une certaine façon.
Subsidiarité aussi, voilà, toutes ces questions. Ouais. Mais je crois que cette notion de puissance les regroupe et est une nouvelle grille de lecture, je pense, et une nouvelle façon d'englober l'entièreté d'un programme sur les affaires économiques, industrielles, technologiques, énergétiques.
Pierre Gentillet,
oui,
pour ne pas conclure, comme on dit.
Pour ne pas conclure, pour reprendre votre question, moi, il y a quelque chose quand même que je voudrais souligner, c'est qu'on parle beaucoup d'idéologie, on essaye de catégoriser tel mouvement politique, tel parti politique au regard des idéologies, et je pense qu'il y a déjà un biais dans cette manière de poser le problème. Je pense qu'en fait, on raisonne avec des lunettes de gauche. J'essaie de faire très très court parce que je vois le temps qui coule, mais...
Ouais.
Je pense précisément qu'on n'a pas à se positionner par rapport à telle ou telle idéologie. Vous savez, la gauche, elle part des idées et elle commence sur un postulat abstrait pour essayer de définir le réel. Voyez, là où la droite, justement, elle parle du réel, même du concret, pour utiliser un mot que j'affectionne, concret en latin, ce qui veut dire cum crescere, ce qui croit ensemble, pour en induire justement des idées, pour en induire un programme politique. Vous voyez, on parle de l'observation. Et ce sont deux raisonnements qui s'opposent fondamentalement. D'une part, la logique déductive, d'autre part, la logique inductive. Donc, je pense que nous n'avons pas à nous positionner par rapport à telle ou telle idéologie. Nous avons à nous positionner par rapport au réel, et pas uniquement par rapport aux idées, voyez-vous. Et je pense que c'est ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'à droite, d'ailleurs, les questions culturelles, d'autres... c'est Rodolphe qui parlait de la nouvelle droite, d'autres parlent d'ethno-culturel. Justement, on se positionne par rapport au vivant, par rapport au concret, par rapport à la chair, et non pas par rapport à l'idée. C'est pour ça que les questions migratoires, nous à droite, nous les comprenons, là où la gauche ne les comprend pas. C'est pour ça que la dureté de la vie, c'est pour ça que les conditions matérielles de l'existence de la vie concrète nous importent plus, et c'est pour ça qu'on part de ça pour aller, pour en induire à ce moment-là, effectivement, des raisonnements, des idées. Donc, je ne vais pas répondre à votre question, vous voyez, justement, et je vais vous dire que nous n'avons pas à nous positionner par rapport aux idéologies, nous avons à nous positionner par rapport au concret, par rapport au réel.
Mais vous savez que tous les penseurs de droite anticonformiste des dernières décennies parlaient de retour au réel, pour parler comme Gustave Thibon, et de l'homme concret, l'homme qui renvoie à la réalité même de ce qui communautairement, charnellement, le porte vers ce qui est lui-même et ce que sont ses communautés. Mais il n'empêche que pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir le mettre sur la table, pour pouvoir... Il est obligé d'utiliser des concepts. Il est obligé d'utiliser des mots.
Je nie pas l'usage de concepts. Je dis simplement qu'on doit partir d'abord du réel, du concret, pour après aller vers l'idée. Et pas simplement au départ poser la question de l'idée. Et après, on parle du réel.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est dans le cadre d'une émission comme ça qu'on essaie justement de dépoussiérer un petit peu les concepts.
Oui, c'est pour ça que je me suis toujours méfié de certains retours au fantasme, par exemple, de retrouver les communautés médiévales, ce genre de choses. Le retour au cercle concentrique, on va dire, qui constitue un homme, la famille, ça ne se décrète pas, ça se sécrète.
Donc ça, oui.
Voilà, exactement. Moi, les grands mots me touchent.
Les narbarchafs au Moyen-Âge.
me touchent pour le coup de moins en moins. En revanche, au-delà même de la question du RN, je pense, je vais rester sur mon 19e siècle chéri, que le contrat social sur lequel se sont agencées les sociétés européennes au 19e siècle sont partout en crise, que ce soit des peuples relativement homogènes. On le sait avec les bouleversements démographiques, la première crise. Deuxième crise, une crise des élites, les bourgeoisies qui remplacent les aristocraties. Deuxième crise. Troisième crise, la classe moyenne. Aussi, le 19e siècle, c'est l'arrivée sur le devant de la scène des classes moyennes. C'est Guizot, etc. au 19e siècle. Aujourd'hui, grosse crise des classes moyennes qui sont en voie de déclassement. Et la quatrième crise, c'est la crise productive. Nos sociétés étaient fondées sur des modèles économiques de production. Aujourd'hui, nous sommes sur un modèle, en tout cas en France, économique de consommation, immigro-consumériste. C'est d'ailleurs les travaux de Jérôme Fourquet. Tout dépend de notre société, notamment économique, fonctionne sur une masse qu'il faut faire venir et qu'il faut maintenir dans un état de consommation par la redistribution, notamment sociale. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cet enjeu du RN, mais qui dépasse même le RN, qui est la circulation des élites qu'il faut justement dans les années à venir pour que de vraies élites nationales arrivent au pouvoir en France et en Europe. Et c'est d'ailleurs la question qui s'est posée aux États-Unis avec cette notion intéressante d'aristopopulisme, où on a une rencontre entre une élite nationale et l'aval populaire, ce qu'a mentionné Pierre Gentier avec la démocratie référendaire. Je pense que ce sera très important d'oser donner la vie au peuple pour sauter par-dessus les corps constitués, conseils constitutionnels, etc., etc., et de revenir sur une logique verticale entre une nouvelle élite constituée et de l'autre côté l'assentiment populaire. Parce que par contre, l'autre enjeu de la démondialisation, c'est qu'une partie de nos élites internes, françaises et européennes, ont trahi et seront là aussi pour conserver, pardonnez-moi le fromage, c'est Christopher Lasch. Et là, par contre, il faudra aussi faire quelque chose de cette ancienne classe dirigeante, la recycler, mais je pense qu'elle se défendra aussi bien.
D'ici un an, les élections présidentielles vont avoir lieu. Bardella ou Marine Le Pen en seront l'un des candidats. Les principaux thèmes qui ont été abordés jusqu'à maintenant par le RN étaient l'immigration et la question sociale. Est-ce qu'on peut penser que ce sont les mêmes thèmes qui vont irriguer la même campagne ? Est-ce que ce sont les deux thèmes mobilisateurs de l'immigration et de la question sociale qui seront toujours les thèmes les plus centraux ?
Bien sûr, ces deux thèmes, mais également la question de l'énergie. J'insiste, hein, mais vraiment, c'est fondamental. Et la question de la santé sera une question fondamentale. Okay. Les enjeux de sécurité, nous avons débordé, c'est
ça. On a débordé. Bon. Merci, à très bientôt, au mois prochain.
Vous venez d'entendre le Libre Journal d'Arnaud Guyot-Janin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 16 avril 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.